mais que se passe-t-il?
Mais que se passe-t-il?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe?
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ces nouvelles du monde, nous sommes le mardi 7 mai. Aujourd'hui, un petit tour de l'actualité avec pas mal d'international, enfin international non, puisque c'est la France, mais on va aller en tout cas outre-océan, en Nouvelle-Calédonie, on va, où ça chauffe fort hein, depuis hier. On va aller faire un tour en Allemagne, où des petits Ewoks dans une forêt luttent contre l'agrandissement d'une usine Tesla. On va parler du mouvement MeToo qui n'en finit plus. Eh bien, qui n'en finit plus malheureusement tout simplement, et il revient en tout cas sur le devant de la scène avec l'ouverture du Festival de Cannes, avec le milieu du cinéma, on le sait, bien chargé en affaires. On va parler un petit peu aussi des tempêtes solaires et de la disparition de Steve Albini. Mais avant cela, un petit retour sur des mobilisations qui ont eu lieu notamment la semaine dernière à Ganges et puis ce week-end du côté de Montpellier, entre autres, des mobilisations pour demander un cessez-le-feu en Palestine. C'était tout d'abord à Ganges, mardi dernier, le 7 mai, qu'un rassemblement a eu lieu à 18h sur la place de la mairie à l'appel du comité Palestine, je crois, Cévennes ou peut-être Le Vigan, si je dis peut-être des bêtises. Voilà, donc un petit rassemblement avec, on va dire, une soixantaine de personnes, dont quelques représentants de mouvements, notamment de BDP, un mouvement qui œuvre depuis longtemps pour le boycott des produits israéliens du côté de Montpellier, qui se retrouve d'ailleurs très souvent avec maille à partir avec la municipalité et la préfecture, qui ne souhaitent pas les voir eh bien justement exprimer ce type de position. Donc ils étaient là, et ainsi qu'un membre de la Libre Pensée 34 de Montpellier, hein, qui a notamment fait un petit rappel historique sur leur bataille, eux aussi, juridique et administrative, contre la préfecture, pour avoir tout simplement le droit de manifester ou de faire des rassemblements. Un droit qu'ils ont d'ailleurs gagné avec succès. Il a tenté un petit peu de donner du courage dans ces mobilisations. Il n'y a pas forcément grand monde. Et il relayait également l'appel à se réunir sur Montpellier, donc, puisqu'il y avait plusieurs actions prévues ce week-end. Une assemblée générale donc, qui s'était tenue le mercredi 8 mai au soir par les soutiens de Montpellier à la Palestine avait décidé notamment d'occuper la place de la Comédie pendant 24 heures, une occupation pour Rafah, à partir du vendredi 10 mai, sachant qu'une manifestation était prévue le samedi. Cette occupation était donc justement à l'initiative du fameux comité BDS, boycott, désinvestissement, sanctions, mais également de l'Union des Juifs français pour la paix, du mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, de la campagne civile internationale pour la protection du peuple palestinien, l'association des Palestiniens en langue de Croussillon, le collectif pour la dignité des musulmans de Montpellier Métropole, le collectif des musulmans de Montpellier et le mouvement d'action non violente, ainsi que de nombreux citoyens qui n'acceptaient pas, j'ouvrais les guillemets, le génocide en cours. Une occupation donc place de la Comédie qui s'est déroulée dans un contexte également de mouvement de la jeunesse scolarisée dans plusieurs pays du monde, dont la France aussi, avec maintenant, vous le savez, des mouvements dans les instituts d'études politiques comme Sciences Po ou à la Sorbonne, qui a d'ailleurs été évacué ce mardi 7 mai, avec 86 gardes à vue à la clé. Quelques lycées français ont aussi été bloqués en soutien à la cause palestinienne, notamment si on revient sur les facs à Montpellier, 200 personnes ont défilé à l'université Paul Valéry, c'était la semaine dernière, contre notamment les partenariats là aussi de leur université, donc la fac de lettres, avec certaines autres universités israéliennes. Un groupe de soutien s'est formé aussi au lycée Joffre. Un nouveau rassemblement d'ailleurs est prévu à Paul Valéry aujourd'hui même à 15h, puisque c'est le jour d'un rendez-vous promis par la présidence au comité universitaire de soutien à la Palestine. histoire d'essayer d'entamer le dialogue et de discuter de ces fameuses, collaborations que certains étudiants souhaiteraient voir suspendues. 50 citoyens, donc si on revient sur l'occupation de la Comédie, une cinquantaine de citoyens avec des associations se sont retrouvés sur la place de la Comédie et pour l'occuper. Ils ont passé la nuit sur place. L'occupation a été levée le samedi 11 mai à 14h, donc ensuite à 24h sur place, et le rendez-vous donc s'enchaînait avec le départ à 15h des marches de l'Opéra Comédie pour le départ d'une manifestation. Voilà, si on termine le communiqué, ils disent que cette action se place sur le terrain de la condamnation de la politique génocidaire de l'État d'Israël et l'exigence d'un cessez-le-feu immédiat et permanent. Dans la suite des diverses initiatives en direction de la ville de Montpellier, cette action demande également des actes, notamment la suspension de toutes les relations institutionnelles et commerciales, jusqu'à ce qu'Israël applique les ordonnances de la Cour internationale de justice à son égard. Et on va quand même compléter cela avec justement un petit peu de l'actualité du conflit. Pendant ce temps, on lisait ce matin, notamment dans les colonnes du Monde, que de nouveaux bombardements israéliens ont eu lieu sur la bande de Gaza et que les combats au sol continuaient dans le nord de cette enclave. Des frappes israéliennes ont lieu dans différents secteurs aujourd'hui, donc notamment à Rafah et dans le camp de Nusayrat, où 8 personnes ont été tués. D'autres frappes ont visé le secteur de Rafah, donc au sud de la bande de Gaza, où près de 1,4 million de Palestiniens sont actuellement entassés. Si la grande majorité de cette population avait trouvé refuge justement à Rafah pour tenter d'échapper aux frappes et aux combats des derniers mois, une partie fuit désormais cette ville qui est adossée à la frontière fermée de l'Égypte. Les combats font rage depuis plusieurs jours à Jabalia et dans la ville de Gaza, qui est située au nord de l'enclave, ville où Israël affirme que le Hamas tentait de reconstituer ses capacités militaires. Là aussi, des ordres d'évacuation de l'armée israélienne donc ont poussé les Palestiniens à fuir, alors que l'Organisation des Nations Unies affirme qu'aujourd'hui, aucun endroit n'est sûr dans la bande de Gaza. Et en termes d'épilogue, à vomir celui-ci, des vidéos qui circulent depuis les réseaux sociaux montrent que depuis des mois, enfin on le sait déjà, mais les vidéos le montrent maintenant, que depuis des mois, ce sont des colons israéliens qui bloquent les camions humanitaires qui tentent de rentrer à Gaza. Des vidéos donc, qui ont été diffusées d'ailleurs par ces mêmes colons, hein, puisqu'ils s'en félicitent, et relayées notamment par le média Contre-Attaque sur Internet. On y voit les camions de nourriture qui sont attaqués, pillés et sabotés par les colons israéliens, diffusés par eux-mêmes. Elles montrent donc les camions pris d'assaut et la cargaison renversée sur le sol, piétinée, mise à sac. Des tonnes et des tonnes de denrées alimentaires sont ainsi détruites chaque jour. Des méthodes à vomir et d'une inhumanité absolue, alors que donc à quelques centaines de mètres seulement, de l'autre côté de la frontière, on y meurt de faim. On part en Allemagne maintenant, où des militants écologistes défilaient devant l'usine Tesla de Grünheide, je ne sais pas trop comment on prononce ça. Ça fait plusieurs mois que ces militants écologistes s'insurgent régulièrement contre le projet d'agrandissement de cette Gigafactory. C'est en effet la seule usine de ce genre du constructeur américain Tesla en Europe. Plus d'un millier de militants écologistes ont donc de nouveau convergé ce samedi 11 mai contre le projet de l'usine Tesla d'agrandir cette usine de voitures électriques. Cette usine est implantée depuis 2022 dans la commune de Grünheide. On est à une trentaine de kilomètres au sud-est de Berlin. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Ces manifestants qui étaient 2000, selon les organisateurs, plutôt, comme ils disent la police, 1000 je crois, voilà, ont été accompagnés d'un important dispositif policier. Ils ont brandi des banderoles avec différentes inscriptions, par exemple « Pour une meilleure vie au-delà du capitalisme », avec le dessin d'une voiture Tesla en train de brûler, ou « Grünheide dit non merci Tesla ». Issu d'un collectif d'associations de protection de l'environnement, parmi lesquels Extinction Rébellion, Naboo ou Robin des Bois, ces manifestants ont entamé depuis mercredi dernier un week-end prolongé d'action en établissant notamment un camp non loin de l'usine. Selon des vidéos tournées sur place, quelques affrontements entre militants et policiers ont lieu au tout début de la manifestation avant que le calme ne revienne. Une militante de 49 ans présente sur place, dont les propos ont été recueillis, je crois, dans Libération, dit que les gens qui vivent ici perdent leurs moyens de subsistance parce qu'ils n'ont plus d'eau potable, la qualité de l'eau se dégrade. Globalement, nous savons aussi que nous n'avons pas besoin de plus de voitures électriques, mais que nous devons concevoir notre mobilité de manière totalement différente. Depuis février, ces militants écolos s'insurgent régulièrement donc contre ce projet d'agrandissement. Ils appellent à la sécurité de l'approvisionnement en eau et à une réelle protection du climat. Ils protestent contre les solutions capitalistes bidons du multimilliardaire Elon Musk, propriétaire, vous le savez, de la marque Tesla. Au début du mois de mars dernier, l'incendie d'un pylône électrique de haute tension avait été revendiqué par un groupuscule d'extrême gauche, mettant cette usine à l'arrêt pendant plusieurs jours. Une semaine après ce sabotage, le patron de Tesla, donc Elon Musk, était venu sur place soutenir les salariés de l'usine et s'en prendre aux auteurs de l'incendie. Par ces mots, il les avait qualifiés d'éco-terroristes. Vendredi dernier, plusieurs manifestants avaient tenté de s'introduire sur le site du constructeur américain, repoussé par les forces de l'ordre. Un porte-parole des forces de police avait fait état de blessés des deux côtés. Elon Musk souhaite agrandir de 170 hectares son usine de Grünheide afin d'y doubler la production pour atteindre 1 million de véhicules électriques par an. Ce projet hérisse bien évidemment le poil des écologistes et des habitants locaux qui s'inquiètent pour la forêt environnante et également pour leur nappe phréatique ou encore aussi de l'augmentation du trafic routier dans la région. Un référendum local à vocation consultative avait d'ailleurs exprimé un refus à hauteur de 60%. Et cette usine, donc qu'on appelle Giga Factory, c'est la seule, je vous le disais, de Tesla en Europe, occupe déjà environ 300 hectares dans cette forêt, pas loin de Berlin. Donc 12 000 personnes y travaillent. Et c'est notamment de cette usine que sort le modèle Y, le SUV phare de Tesla pour le marché européen.
Changez le monde, vous êtes bien sympathique, mais on va déjà vous lever le matin. C'est pas le monde qui va se plier à vos désirs, les enfants. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est le vrai monde dehors. Mais le vrai monde, il va chez le coiffeur.
Des nouvelles du monde.
Un petit Jean du Jardin pour commencer cette chronique sur MeToo. J'avais pas fait exprès. Bon, on ne sait pas trop où il en est, lui, mais il y a une histoire de liste de noms qui circule. Je vais vous en parler aussi un petit peu. En tout cas, le sujet, c'est bien le mouvement MeToo, le hashtag MeToo. Hein. 7 ans après ce lancement de ce hashtag sur les réseaux sociaux et le mouvement qui a suivi et qui a pris donc ce nom, 100 personnalités, dont de nombreuses actrices, bien évidemment, signaient une tribune publiée aujourd'hui par Le Monde. Et aujourd'hui, c'est aussi le jour de l'ouverture du Festival de Cannes. Elles appellent dans cette tribune à une loi intégrale contre les violences sexuelles en France. Nous sommes 100, mais en réalité, nous sommes des centaines de milliers, écrivent donc les signataires de ce texte, assorti d'une pétition d'ailleurs que vous pourrez retrouver notamment dans les colonnes du Monde. Cette pétition a été, et ce texte a été initié par la Fondation des Femmes, le hashtag MeToo Media et l'actrice Anna Mouglalis. Nos prises de parole MeToo ont révélé une réalité plongée dans le déni. Les violences sexistes et sexuelles sont systémiques, pas exceptionnelles. Pour autant, qui nous écoute vraiment ? Peut-on lire dans cette tribune ? Dans les signataires, quelques noms d'actrices connues, hein, Isabelle Adjani, Charlotte Arnoux, Emmanuel Béart, Juliette Binoche, Emma de Caunes, Isilde Lebesco, Muriel Robin. Des autrices, Leïla Slimani, Christine Angot, Vanessa Springora, ou encore le comédien Philippe Torreton, bien, et évidemment l'actrice Judith Godrèche aussi, dont on va reparler. Depuis 7 ans, nous parlons pour nous et pour toutes les femmes, hommes et enfants, qui ne peuvent pas le faire, écrivent-elles. Nous ne sommes pas des chiffres, femmes et hommes de tout milieu professionnel. Nous nous rassemblons pour demander une loi intégrale contre les violences sexuelles et sexistes. Une loi ambitieuse et dotée de moyens, car malgré le courage des victimes, c'est l'impunité qui grandit. Les signataires jugent notamment inacceptable que le classement sans suite des plaintes pour violences sexuelles ait atteint ce taux délirant de 94% en 2022. Oui, 94% classement sans suite. Ils préviennent, ils et elles préviennent qu'ils n'accepteront plus les effets d'annonces sans suite. Ce retard abyssal de la France, avec l'ajout du seul mot « consentement » dans la loi, ne permettrait pas de rattraper le retard abyssal de la France en la matière. Voilà, c'est ainsi qu'est formulée cette critique dans la tribune. Ils font référence notamment à l'engagement pris au mois de mars par Emmanuel Macron. Les signataires demandent donc cette loi intégrale, je vous le disais, qui permettra aussi de clarifier, entre autres, la définition du viol et du consentement, d'introduire aussi la notion de l'inceste, de juger les violeurs en série pour tous les viols connus, d'élargir les ordonnances de protection aux victimes de viol, de faciliter la collecte de preuves, de créer des brigades spécialisées, d'interdire les enquêtes sur le passé sexuel des victimes. La publication de cette pétition survient donc après plusieurs mois de révélations sur des violences sexuelles commises dans le milieu du cinéma, entre autres. Mais ça a en tout cas fait pas mal de lumière de nouveau sur ces questions-là, avec les témoignages notamment donc de Judith Gautrèche ou Isilde Lebesco. Judith Gautrèche notamment, ce mercredi, qui est devenue le fer de lance de MeToo en France, et elle a accusé de viol deux figures du cinéma d'auteur, Benoît Jacquot et Jacques Doyon. Elle viendra ce mercredi, donc demain, présenter à Cannes un court-métrage qui s'intitule « Moi aussi », un court-métrage justement qui traite de cette question, réalisé avec 1 millier de victimes de violences sexuelles qui ont répondu à son appel. Toujours la même Judith Gautrèche, elle est apparue hier avec pancartes et journaux brandis devant le CNC, le Centre National du Cinéma, en tête d'un rassemblement. C'était ce lundi 13 mai pour demander la suspension du CNC. Du président du CNC, qui s'appelle Dominique Boutonnat. Il est en poste depuis 2019 et mis en examen depuis 2022 pour agression sexuelle sur son filleul. Il est donc toujours président du Centre National du Cinéma. Depuis 2017, il ne s'est en réalité pas passé grand-chose dans la lutte contre les violences sexuelles, estime de son côté Anne-Cécile Meilfer, qui est présidente de la Fondation des Femmes. L'augmentation des plaintes a vu en parallèle une augmentation des classements sans suite. Hashtag MeToo est en train d'être envoyé à la poubelle. Si l'on ne résout pas le problème de moyens pour les enquêtes, pour les tribunaux, l'intégration de la notion de consentement dans la définition du viol ne changera rien. Il faut la volonté politique de vraiment résoudre le problème de l'impunité, dit-elle. Or, à l'heure actuelle, il n'y a pas cette volonté politique. Ça, c'était donc un article du Monde, et je complète aussi avec cette histoire de liste dont vous avez peut-être entendu. C'est Mediapart qui a réagi hier à la rumeur selon laquelle la rédaction de Mediapart aurait entre ses mains une liste sur laquelle figureraient les noms de 10 stars du cinéma accusés de violences sexuelles. Une liste qu'elle s'apprêterait à publier à l'ouverture du Festival de Cannes. Voilà de quoi faire un gros buzz médiatique. Mais visiblement, cette liste de 10 acteurs n'existe pas. Voici ce qu'on peut lire dans les colonnes de Mediapart. Mediapart ne publie pas de liste quand nous révélons des faits à propos de violences sexistes et sexuelles, comme sur l'ensemble des sujets d'intérêt général que nous couvrons. Nous publions des enquêtes portant sur des informations recoupées. Une enquête qui n'est pas publiée n'existe pas. Et au final, conclut ce petit article de démenti de la part de Mediapart, la rumeur, cette rumeur de cette liste, offre une esquive à celles et ceux qui ne veulent entendre ni Judith Gautrèche, ni Adèle Haenel, ni Isilde Lebesco et tant d'autres. Ceux qui refusent de bousculer leur certitude, de questionner le cinéma, le rôle de l'image et de l'art dans nos représentations et la reproduction des rapports de domination et de pouvoir. C'est ce que déplore donc Mediapart, et dans cette liste figurait un petit peu le gratin des acteurs français du moment, dont notamment Jean Dujardin. Donc voilà, c'était un petit peu peut-être malencontreux cette introduction, mais en même temps, bon, la suite nous dira de quoi il en est fait. On reste sur Mediapart, où on lit un petit peu ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Ça chauffe fort, voire très fort. Des magasins pillés, des maisons incendiées, des tirs à balles réelles sur les gendarmes. Des affrontements d'une extrême violence ont éclaté cette nuit, dans la nuit de lundi à mardi. Cela alors que l'Assemblée nationale examine à Paris une révision constitutionnelle décriée par les indépendantistes. Le représentant de l'État en Nouvelle-Calédonie, Louis Lefranc, a décrété le couvre-feu pour cette nuit de mardi à mercredi dans l'agglomération de Nouméa, la capitale de ce territoire d'outre-mer. Les forces de l'ordre ont procédé pour l'instant à un total de 82 interpellations ces deux derniers jours. C'est Gérald Darmanin qui a détaillé ces chiffres devant la presse. 54 gendarmes et policiers au total ont été blessés, et certains gravement, toujours d'après le ministère de l'Intérieur. Darmanin précisant que des familles de gendarmes avaient été évacuées d'ailleurs. À Nouméa, le haut-commissaire de la République a appelé la population au calme, d'ailleurs tout comme le président indépendantiste du gouvernement du territoire, Louis Mapou. Ces premières altercations entre les manifestants et les forces de l'ordre ont commencé dans la journée d'hier, en marge d'une mobilisation indépendantiste contre la réforme constitutionnelle qui est examinée en ce moment même à Paris. Cette réforme constitutionnelle vise à élargir le corps électoral aux élections provinciales et ce sont des élections cruciales en Nouvelle-Calédonie. Les indépendantistes estiment que ce dégel donc des voix risque de minoriser encore plus le peuple autochtone kanak. Monsieur Lefranc, donc c'est le représentant de la France en Nouvelle-Calédonie, pour ce qui est des altercations, il a rapporté des tirs tendus avec des armes de gros calibre, des carabines de grande chasse sur les gendarmes dans la nuit de lundi à mardi dans la commune du Mont-Doré au sud-est de Nouméa. Dans les quartiers nord de Nouméa, le représentant de l'État a aussi déploré des destructions de commerces, de pharmacies et de domiciles. On a malheureusement, dit-il, pu constater des exfiltrations d'habitants de leurs maisons pour qu'ensuite elles soient brûlées. Des brigades de gendarmerie ont été attaquées, selon la même source. Il évoque des émeutiers qui ont essayé de pénétrer dans les lieux avec des sabres, des caillassages et des tirs. Les renforts musclés sont donc en route, voire déjà sur place, pour rentrer dans la bataille, dans la crainte de l'enlisement de cette situation des éléments du GIGN, du RAID, ce qui est l'équivalent pour la police, 4 escadrons de gendarmes mobiles et 2 sections de la CRS 8. Soit une unité spécialisée dans la lutte contre les violences urbaines, ont été mobilisés. 7 escadrons de gendarmerie sont sur place, contre 3 à 4 en temps normal. Par ailleurs, 15 gendarmes du GIGN sont arrivés aujourd'hui sur place aussi en renfort. Les autorités s'inquiètent particulièrement de la situation dans une usine qui a été incendiée et qui est située à l'entrée de Nouméa, dans laquelle une trentaine d'émeutiers étaient retranchés aujourd'hui. Nous leur demandons instamment de quitter les lieux en raison du risque d'explosion imminent de 2 cuves d'hydrogène qui sont sur le site, indique toujours le représentant de l'État français, Monsieur Lefranc. Voilà donc beaucoup d'informations pour l'instant qui émanent principalement des services préfectoraux et ministériels sur les forces de police en présence. Pas beaucoup de témoignages du côté des manifestants, puisque c'est encore très très chaud tout ça, c'est dans les colonnes de Mediapart. On peut lire notamment quelques constatations de l'état de Nouméa aujourd'hui, où les rues de la ville et de sa banlieue étaient parsemées de carcasses de voitures incendiées et de débris fumants de pneus et de palettes de bois. Même si la situation semblait donc plus calme, de nombreuses barricades restaient actives. D'ailleurs, tout rassemblement a été interdit dans le Grand Nouméa, de même que le port d'armes et la vente d'alcool dans l'ensemble de l'archipel. Et le Haut Commissariat a invité les 270 000 habitants de Nouvelle-Calédonie à rester chez eux. Le gouvernement calédonien, de son côté, a annoncé la fermeture des lycées et des collèges jusqu'à nouvel ordre. L'aéroport international est fermé jusqu'à jeudi. Et la compagnie Air Calin a suspendu ses vols jusqu'à la réouverture de l'aéroport. Si on revient en métropole, à Paris, c'est une séance tendue qui s'est tenue hier à l'Assemblée nationale, au cours de laquelle Gérald Darmanin a appelé les députés à adopter sans modification la réforme qui ouvre donc le scrutin provincial aux résidents installés depuis au moins 10 ans sur l'île. Alors qu'un vote solennel était normalement prévu cet après-midi, les débats n'ont pas pu être menés à leur terme dans la nuit, en raison notamment d'un grand nombre d'amendements qui ont été déposés par le groupe La France Insoumise. Un nouveau calendrier des débats doit donc être acté ce matin. Après celle du Sénat, l'approbation de l'Assemblée est nécessaire avant de pouvoir réunir le Parlement en congrès pour réviser la Constitution à une date qui reste encore à fixer.
C'est pour ça.
Ça ne veut plus rien dire, hein ?
C'est pour ça que je crois que j'ai besoin d'un petit remontant. Je vais demander un petit café, c'est pour ça.
Allez, on va prendre un petit peu de hauteur. Vous les avez peut-être vus, ou en tout cas vous en avez certainement entendu parler, ou alors vous avez fait comme tout le monde, vous avez regardé des photos sur Internet. En tout cas, des aurores boréales ont été visibles dans nos latitudes, ce qui est très rare. La raison, c'est une activité solaire très importante, soit même des tempêtes solaires, qui arrivent de manière cyclique environ tous les 11 ans, et qui pourraient continuer de s'accentuer dans les jours à venir. De quoi, en tout cas, un petit peu enflammer les esprits du côté de la communauté scientifique ou autre. Certains imaginent que la Terre pourrait être sur le point de subir à nouveau les conséquences de cette activité solaire, par exemple de vivre un nouvel événement de Carrington. Un petit peu d'histoire, donc l'événement de Carrington, c'est une puissante tempête solaire qui avait causé de nombreuses pannes à l'époque, et dans un monde pourtant elle n'est pas encore aussi dépendant des systèmes sensibles aux perturbations électromagnétiques qu'aujourd'hui, puisqu'on était à la fin du 19e siècle. Et de fait, les tempêtes solaires sont l'un des risques majeurs pour la Terre qui est identifié par l'OCDE. Ça fait partie des 5 risques majeurs pour la Terre, en tout cas pour l'humanité. mais pas directement, vous allez le comprendre, c'est plutôt les infrastructures qui sont visées. Ces éruptions solaires, en effet, ne menacent pas le vivant, même si elles peuvent quand même perturber un petit peu les systèmes électromagnétiques, notamment de tous les animaux qui se déplacent sur la planète, mais elles peuvent surtout porter préjudice à nos infrastructures. Ce phénomène s'accompagne en effet de modifications du champ magnétique de la Terre, qui peuvent influer sur des installations électriques, des réseaux notamment de distribution d'électricité. C'est pourquoi d'ailleurs les entreprises concernées, toutes celles qui sont dans le domaine de l'électricité, reçoivent des bulletins détaillés 2 heures avant l'arrivée d'un phénomène potentiellement dangereux. Et oui, le soleil étant très proche et plutôt bouillant, on a du mal à prévoir ça longtemps à l'avance. En 1989, par exemple, une tempête solaire avait forcé la société responsable de la distribution de l'électricité à couper le courant pendant 9 heures en plein mois de mars. Depuis, les opérateurs électriques et les entreprises du spatial ont adopté des protocoles pour réagir à ce genre de situation. Et oui, parce que dans l'espace, c'est encore pire, on est moins protégé par l'atmosphère. Le dernier événement qui a atteint un niveau 5, soit le plus haut niveau sur l'échelle qui a été mise en place pour justement mesurer ces phénomènes. C'était un événement qualifié d'extrême et c'était en octobre 2003 qu'il a eu lieu. On l'a appelé les tempêtes d'Halloween, selon l'agence américaine NOAA. À l'époque, des coupures de courant étaient survenues en Suède et des transformateurs avaient été endommagés en Afrique du Sud. Mais j'ai gardé le meilleur pour la fin. C'est en effet qu'une tempête solaire peut surtout endommager les satellites qui sont en orbite autour de la Terre. La magnétosphère se retrouve comprimée, ils se retrouvent dans un environnement pour lequel ils n'ont pas été conçus, explique un chercheur. Et ainsi, par exemple, en 2022, la société SpaceX d'Elon Musk, toujours lui, a perdu environ 40 satellites qui n'ont pas pu atteindre leur orbite et qui se sont désintégrés dans l'espace, faisant par là même de jolies étoiles filantes. Bon, ça fait un petit peu rêver, non ? Sachant, je vous le disais, que c'est peu prévisible, qu'il n'y a pas grand-chose à faire pour s'en protéger. Enfin, en tout cas, les humains qui sont dans les stations spatiales, eux, ont des protocoles pour se protéger, parce que ça peut atteindre le corps humain quand on est dans l'espace. Mais sur Terre, en tout cas, ce sont principalement les radiotélécommunications qui risquent d'être touchées, avec soit des petits blackouts, soit même des pannes plus conséquentes, et les conséquences à l'échelle globale que ça pourrait entraîner, notamment si Internet plantait. Bon, ça peut aussi faire mal à la radio sur le moment, mais je pense qu'on mettra vite les choses en route si jamais ça arrive. En tout cas, si vous venez autour de Saint-Hippolyte du Fort, il y aura certainement toujours Radio Escapade. Et on termine une petite rubrique nécrolo musicale, puisque mardi dernier, donc il y a une semaine, c'est Steve Albini qui nous quittait. Steve Albini, figure légendaire du rock indépendant. Il est mort après une crise cardiaque dans son studio d'enregistrement Electrical Audio dans la ville de Chicago à l'âge de 61 ans. Il était fondateur du groupe Big Black en 82, chanteur et guitariste du groupe Shellac, lui-même fondé en 92, mais surtout connu pour sa myriade de productions sonores, puisqu'il était très 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 prolifique. Il est derrière un énorme nombre de classiques du genre. C'est à ce titre que quand sa disparition a provoqué beaucoup d'émoi dans la communauté musicale, on l'a parlé d'une vraie légende du rock, tant par son style et le son qu'il produisait, que par son attitude assez radicale envers l'industrie musicale. Toujours au boulot donc, et en marge des grandes compagnies, une sorte de compromis entre la rage du rock et l'auto-organisation du punk. Il a malgré tout façonné des albums très connus et qui se sont bien vendus, et qui sont d'ailleurs restés mythiques. Je vais vous en citer quelques-uns. Je sais pas, In Utero de Nirvana, Surfer Rosa des Pixies, Read of Me de PJ Harvey, tout ça on est sur 93, les Pixies en 88. On peut citer Dionysos pour des Français, ZX et un millier d'autres groupes au moins. Enfin, je ne sais pas si quelqu'un les a tous connus, car il produisait environ 30 albums par an dans son studio. Et il avait la particularité d'en enregistrer pratiquement tous ceux qu'il souhaitait, en apportant son style brut à leur projet rock ou autre, et le tout pour des sommes abordables, une manière de travailler assez resserrée, une semaine en studio et on y va. D'ailleurs, parmi les derniers à être passés dans son studio, ce sont les rockers occitans de CXK, avec leur punk metal bien lourd qui gravite autour de Toulouse et qui viennent d'enregistrer leur dernier album chez lui. Voilà, d'ailleurs, je pense que vous en entendrez certaines chansons sur les ondes de Radio Escapade. On a salué aussi dans l'agenda la disparition de Giovanna Marini, grande chanteuse et chercheuse militante italienne, exploratrice des polyphonies vocales, attentive aux luttes sociales. La fondatrice de la Scuola Popolare di Musica di Testaccio à Rome s'est éteinte ce 8 mai à l'âge de 87 ans. Et c'était aussi une certaine forme de radicalité dans la démarche musicale. On va se quitter donc en écoutant la voix et la guitare de Steve Albini, accompagné de la basse et de la batterie, de ses comparses du groupe Shellac, avec un titre de 2016 dans l'album Dude Incredible, ça s'appelle All Surveyors.
Who walks the king's road?
Who fears a king?
Who fears a king?
Fuck the king!
Fuck the king!
Cameras in orbit will survey lines on the earth that show where the corn is in the crater that we made out of you times son of a bitch squared. Here come the surveyors. Here come all the surveyors. They show them. They still don't show their face to all.
Des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interviews, communiqués. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Mais que se passe-t-il?
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à midi et demi sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.